Nous lirons donc, je pense, une dernière fois le psaume 73 en abordant cette troisième fois ce psaume. Écoutons donc la parole de Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe, leur figure est débordante de graisse, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là, on avale l'eau abondamment, et l'on dit. Et je crois que ça doit être compris comme une parole des méchants. Comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je lavais mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Châtiment de la part de Dieu qui permet des épreuves dans ma vie. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, ou m'exprimer ainsi, en disant, je suis frappé tout le temps, voici, je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc, ou quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, pour comprendre pourquoi Dieu permet la méchanceté dans le monde, ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà en pleine désolation, ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Parle du jugement dernier. Et maintenant, revenu de cette mauvaise expérience de jalouser les méchants, il dit, lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi ou envers toi, j'étais comme les bêtes, j'étais comme un animal sauvage. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, et ensuite tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et en dehors de toi, ou peut-être meilleur, avec toi, je n'ai aucun autre désir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Nous avons compris que le psaume a trois parties, n'est-ce pas? Une première partie dans les versets 1 à 12, le problème des méchants. Qui a mis cet homme dans une tourmente impossible par sa propre faute? Et peut-être vous aussi. Quand le mal est arrivé dans votre vie, la maladie ou une trahison ou une difficulté, peut-être vous aussi, en face du mal, Vous avez été dans une tourmente percée dans les reins. Cela nous arrive, n'est-ce pas? Et donc nous avons vu dans cette première partie qu'il décrit en long et en large ses pensées quand ça n'allait pas. Comment les riches méchants sont obèses, tranquilles et n'ont aucune part aux épreuves du peuple de Dieu. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, dans les versets 13 à 17, nous avons vu le point tournant. Parce que c'est un récit véritable. Ça s'est passé dans la vie de cet homme. Il y a eu un point tournant. Il a essayé d'abord de comprendre, de s'en sortir par sa raison, en essayant de comprendre le mystère de comment un Dieu bon peut permettre le mal, le viol, le meurtre, la personne qui perd son fils par un assassinat. Vous voulez vous en sortir par votre raison? Au grand jamais. Et il dit, lorsque j'ai tenté de comprendre ça, cela fut pénible à mes yeux. C'est-à-dire, je me suis simplement enfoncé dans la douleur. Ça m'a fait aucun bien. Jusqu'à ce que j'arrive dans les sanctuaires de Dieu. Et en délaissant la place du petit bonhomme qui pense résoudre et comprendre les voies d'un Dieu infini, les amis, infini et éternel, il prend la place d'un adorateur dans le sanctuaire de Dieu et il s'abaisse et il écoute et il adore. Et dans la présence de Dieu et à l'écoute de Dieu, pouf, ses yeux sont ouverts. Et il comprend de la perspective divine et éternelle, il dit, alors j'ai compris le sort final des méchants. Et son problème est résolu. Mais maintenant, la partie qui nous a intéressés la dernière fois et cette fois, c'est la transformation. Parce que ce psaume, chers amis, est le récit d'une transformation, mais pas possible. J'en trouve peu comme ça. Parce que nous avons un homme qui dit qu'il était comme une bête sauvage envers Dieu. Son pied a failli glisser. Il a failli quitter carrément la foi en Dieu. Et tout plaqué. Il dit, j'étais percé dans les reins, j'étais amer, j'étais un homme, oui, j'étais un homme amer, aigre. Mon cœur s'est grissé, il dit. Mais maintenant, regarde-le à la fin du psaume. Il dit, tu m'as saisi par la main droite, tu me conduis par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Avec toi, je n'ai besoin de rien sur la terre. Même si mon cœur et ma chair défaillent, tu seras toujours le refuge de mon cœur. Je veux raconter tes œuvres. Il mettait en cause son Dieu avant. Et maintenant, je veux vivre pour toi, me réfugier en toi et raconter aux hommes tout ce que tu fais. C'est incroyable. Il est complètement changé. Or, rien n'a changé dans sa situation. Et ça, c'est l'évangile. Le problème n'est jamais en dehors de toi. Le problème de ta colère, ta frustration, ton attitude aigre. Le problème, c'est ta manière de répondre. Et donc, il n'est plus obsédé par le mal. Dans la première partie du psaume, il utilise le mot Dieu trois fois, et deux ne comptent pas. Parce que la première fois, c'est juste l'introduction au psaume, où il annonce le thème du psaume, oui, Dieu est bon pour Israël. La deuxième fois, le mot Dieu est dans la bouche des méchants. Comment Dieu est-ce qu'il connaîtrait ça? Donc, dans les 17 premiers versets, il dit Dieu une fois. Et dans la dernière partie, les derniers 10 versets à peu près, il utilise le nom de Dieu. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça doit être une douzaine, une quinzaine de fois. Dans chaque ligne, tu vois qu'il dit, tu m'as saisi, tu me conduis, tu me recevras, qui d'autre ai-je que toi? Dieu sera mon rocher. Vous voyez un changement de perspective. Ses pensées sont obsédées par le mal, les hommes méchants. Ils ne pensent qu'à ça. Vous avez fait ça aussi. Vous avez été obsédé par quelqu'un ou quelque chose de mauvais. Et vous ne pouviez vous arrêter de penser à ça. Et puis Dieu le change complètement. Et maintenant, ses pensées, il est fasciné. Il est préoccupé avec Dieu et tout ce que Dieu fait dans sa vie qui lui était complètement caché quand il n'allait pas bien. Lui, il pensait que Dieu faisait rien dans sa vie. Il voyait Dieu comme absent et inactif. Et aujourd'hui, nous allons voir que ses yeux ont été ouverts pour voir que Dieu était partout dans sa vie et que Dieu est en train d'agir de manière incroyablement bonne en lui. C'est ça l'œuvre de la sanctification, n'est-ce pas? De nous ouvrir les yeux. Ok, voilà ce que nous allons faire. Nous allons regarder trois réalités de Dieu dans sa bonté dans ta vie, si tu es chrétien. Trois choses qui sont vraies de toi à tout moment. Quel que soit le malheur ailleurs, il y a trois choses, trois réalités de Dieu qui agit avec une bonté incroyable dans ta vie. Et nous allons voir après ces trois choses, trois résultats que ça doit créer dans ta manière de vivre. OK? Maintenant, d'abord les trois réalités. Verset 20-23 est la deuxième partie. Il dit, tu m'as saisi la main droite. Je vais quand même lire les deux prochaines phrases. On aura les trois réalités. Tu m'as saisi la main droite, le passé. Tu me conduis par ton conseil, le présent. Et ensuite, tu me recevras dans la gloire, le futur. D'abord, tu m'as saisi. Le psalmiste, a ses yeux ouverts du fait que Dieu l'a saisi et Dieu le tient. Et si vous êtes croyant, ces deux choses sont vraies de vous et sont extrêmement importantes. Que dans sa bonté, Dieu est venu te saisir pour te tenir sans jamais te relâcher. Vous connaissez le grammaire français, je pense, n'est-ce pas? Donc lorsque nous lisons cette phrase, tu m'as saisi la main droite, quel est le sujet de la phrase? Quel est l'acteur de l'action? C'est tu. Tu? Et qui est l'objet de l'action? Qui reçoit, qui subit l'action? Moi. Tu m'as saisi. Et l'action, c'est saisir. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont saisi Jésus-Christ. Ils ont choisi Jésus-Christ. Mais ce n'est pas du tout une idée biblique. Lorsque Paul parle de sa conversion, il dit ceci, Philippiens 2:12, je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Je suis complètement d'accord que tu deviens chrétien en embrassant le Christ. Mais tu embrasses le Christ seulement parce que il t'a saisi. Il t'a saisi. Et le psalmiste est en train Jésus le dit comme ceci. Personne ne peut venir à moi sauf si le Père qui m'a envoyé l'attire. Et le mot attirer, c'est le même mot grec que le mot qu'on utilise pour tirer de l'eau d'un puits. C'est pas amadouer, viens l'eau, viens. C'est faire venir. C'est faire venir. Personne ne peut venir à moi sauf si le Père le fait venir. Le fait venir. Autrement, la gloire de votre salut est à vous. Vous êtes venu à Christ parce que vous étiez tellement sage, parce que votre libre arbitre était tellement fort. Mais non, le psalmiste n'a rien de ça dans sa pensée. Ce qui le réjouit, c'est tu m'as saisi par la main droite. Tu m'as saisi. Le psaume 65. Bienheureux celui que tu fais venir pour demeurer dans tes parvis. Le grand chrétien du XXe siècle en Angleterre, un des grands chrétiens, était l'auteur, le professeur à Cambridge et Oxford, C.S. Lewis, qui s'est converti en tant que agnostique, athée, un peu déjà professeur universitaire. Et lorsqu'il raconte sa conversion, on lui a demandé la question et il a dit, c'est même pas de bon grammaire en anglais, mais il dit, c'est comme si j'ai été décidé. Il dit en anglais, I was decided upon. Dieu, il dit oui, bien sûr, j'ai choisi Christ, bien sûr, j'ai dit oui, bien sûr, j'ai arrêté de fuir, mais c'est comme si je ne pouvais que faire ça. Je ne pouvais que faire cela. Regardez l'apôtre Paul. Il est en train d'aller sur la route de Damas et Dieu, le Seigneur Jésus, apparaît à lui et le plaque par terre. Et il l'appelle Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi et va dans la ville et je te dirai ce que tu dois faire. Ben, c'est décidé. Est-ce que tu veux ou pas m'accepter comme ton sauveur? C'est pas ça, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas en train de minimiser cette vérité que personne ne vient à Christ sans lui se repentir et croire. Mais je vous dis devant Dieu que personne ne se, aucun pécheur mort dans son péché n'est capable de se repentir et de croire, sauf si Christ vient te saisir. Et heureusement, il vient te saisir pour te tenir et ne jamais plus te lâcher. Nikki me gronde parfois quand nous allons nous promener parce qu'on se tient la main d'habitude et si jamais il y a une voiture qui vient, elle a traversé sans voir. Moi, j'ai le réflexe de gripper sa main. Et donc, je ne sais pas si c'est parce que je faisais de l'escalade avant, mais elle me dit, tu m'écrases presque la main. Je ne vais pas la lâcher. Je ne vais pas la lâcher devant ça. Non, jamais. Et donc, le psalmiste dit que tu m'as saisi par la main. Ailleurs, dans le psaume 139, il dit ceci. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller loin de toi? Ou fuir loin de ta présence? Il y a des gens ceux qui croient dans le libre arbitre, ils pensent que non seulement c'est à eux de saisir tout seul le Christ, mais aussi ils peuvent le lâcher avec leur libre arbitre. Mais c'est pas la foi biblique. Le psalmiste dit ici, où pourrais-je aller loin de toi ou fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, tu voici. Si je m'envole au soleil levant et que je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide et ta main droite ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Et Jésus le dit comme ceci. Il dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis sont mes élus. Ils entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Ok, ça c'est notre part. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main, de ma main. Être chrétien, c'est pas avoir Christ dans ta main et tu peux lâcher. C'est avoir été saisi par la main du Seigneur et être dans sa main. Donc il dit ceci, il dit, Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, ce premier point, c'est juste que le psalmiste ne réalisait pas quand il était tellement aigre que Dieu était tellement bon pour lui. Il l'avait saisi. Et il dit, même quand j'étais comme une bête sauvage envers toi, cependant j'étais toujours avec toi. Vous l'avez vu le verset? Pourquoi? Comment est-ce que tu peux être tellement mauvais envers le Seigneur, faillir quitter le Seigneur, et cependant tu es toujours avec moi? Parce que son amour ne change pas, même quand ton amour défaille. Et donc il te ramène à lui. Il te ramène. Et donc le psalmiste se réveille de son aigreur et réalise la bonté de l'Éternel envers lui. Tu m'as saisi. Deuxièmement, dans la phrase suivante, il dit au verset 24, tu me conduis par ton conseil. Tu m'as saisi, tu me conduis. Il voit ce qu'il n'a pas vu avant. C'est-à-dire, est-ce que tu es chrétien? Alors tu es en train de vivre une vie accompagnée et guidée par l'Éternel Dieu lui-même. Est-ce possible? Quel miracle pour moi ou toi de pouvoir dire que je ne suis pas comme les gens du monde. Les gens du monde, leurs caractéristiques propres, c'est de vivre selon leurs propres pensées. Moi, je pense que, c'est leur manière de parler, moi, je pense que. Et vous voyez où ça les mène. Dans le chaos, dans la confusion. Quel malheur que de vivre sans être guidé par Dieu. D'avoir mes valeurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bon. Ben, moi, je pense que. Ça, c'est la définition des ténèbres, de la chute. L'homme n'est pas fait pour se diriger. Il est fait pour vivre à l'écoute, pour être dirigé par le conseil de Dieu. Écoutez ceci dans le prophète Jérémie. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Si seulement on pouvait crier ça sur les toits aux gens. J'ai une manière facile de résoudre tous tes problèmes. Arrête de diriger ta vie. Arrête de vivre sur la base de ton inspiration à toi. Et vis à partir de la révélation divine. Là, vous allez complètement changer la manière de voir tout. Vous-même, Dieu, l'avenir, le présent, les valeurs, la moralité, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est banal. Tout va changer. Confie-toi en l'Éternel, Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, qui marche là parce que j'ai dit, c'est là. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, rappelez-vous que le psalmiste vient de passer quelques mois, on ne sait pas combien de temps, à essayer de réfléchir pour lui-même. Pourquoi est-ce que le mal existe? Pourquoi? Et où est-ce que ça l'a amené? Dans le chaos total, dans une vie amère. Mais maintenant, il est revenu à lui-même et il voit une part de mon héritage en tant que chrétien, enfin en tant que croyant, c'est que Dieu m'a saisi, il ne va pas me lâcher, et il me conduit. Je vis une vie guidée. Alors, faisons-le comme il faut. Est-ce que vous réalisez combien Dieu a été bon envers vous pour vous saisir, mais aussi combien il est bon dans le fait qu'il est en train de vous guider. Alors, attendez, je ne parle pas d'être guidé de manière mystique. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah là là. Au moins une bonne 80% de Dieu m'a dit, c'est toi tu t'es aidé et tu as mis Dieu là-dessus. Je parle du fait que Dieu nous guide par son esprit, par sa parole. Dans la piété biblique, chers amis, ce n'est jamais l'esprit sans la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. En tout cas, il n'y a aucun contrôle si c'est Dieu m'a dit. Je pourrais nuancer ça un tout petit peu, mais il y a trop de ça dans le. Moi, je suis pasteur depuis presque 40 ans maintenant, et j'ai entendu des gens dire Dieu m'a dit pour des plus grandes bêtises du monde, pour des choses qui sont complètement contre la parole de Dieu. Dieu a dit complètement le contraire. Ne m'en voulez pas, chers amis, si je dois vous exhorter. Mais Dieu vous guide, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Et sa bonté, c'est de coucher cela dans l'écriture permanente pour que ce soit stable et visible et que vous n'ayez pas de questions à est-ce que c'était Dieu ou pas Dieu qui. Voilà. Mais c'est merveilleux. Et le psalmiste change d'avis. Oh, j'ai une mauvaise vie, je suis frappé tous les jours, tous les matins, mon châtiment est là. Et maintenant, il dit, tu m'as saisi, tu me conduis. Quel bonheur de vivre cette vie conduite. Et puis, la troisième chose, c'est, vous êtes quelqu'un que Dieu prépare pour vous ramener auprès de lui dans une gloire éternelle. Nous lisons ça dans le verset 24, la dernière partie. Donc tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et il donne un portrait complet de la, enfin, en trois idées fortes de la bonté de Dieu envers le chrétien, en le sauvant, en le tenant, en le guidant, en le ramenant un jour auprès de lui, dans sa présence immédiate, face à face. Mais cela, c'est tellement grand que j'arrive même pas à savoir comment vous le dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous serons amenés dans la présence de Dieu devant lequel les anges voient la face et crient Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, transcendant dans sa beauté, dans son excellence, dans sa gloire et sa majesté. Mais donc Dieu a un but dans ta vie et le fait qu'il t'a saisi, le fait qu'il te conduit, c'est juste les fiançailles. Pardon, les fiançailles. Le but de tout cela, c'est le mariage. C'est d'amener, de vous amener auprès de lui, dans sa présence même. Donc vous n'avez rien vu encore de la bonté de Dieu. Attendez, vous allez voir. C'est un peu ce que le psalmiste veut nous apprendre. Et ce destin éternel, sans que vous pensiez à ce destin éternel, vous ne pouvez pas avoir une bonne mesure de la bonté de Dieu. Combien est-ce que Dieu est bon envers vous? Vous devez le mesurer par là où il va vous amener, ultimement. C'est là que vous saurez. Et c'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui doivent arrêter de penser uniquement au fait que Dieu m'a saisi, Dieu me conduit ici-bas. Vous devez ajouter la troisième partie. Il va me recevoir dans sa gloire éternelle. Et donc, nous voyons pourquoi il n'envie plus les riches, les méchants, n'est-ce pas? Quel trésor nous avons! Quel trésor! Les richesses éphémères de ce monde, c'est quoi? C'est absolument rien à côté de tout cela. Ok, comment est-ce que ça doit nous affecter? Trois choses. D'abord, ça doit nous amener à un nouveau contentement en Dieu lui-même. Lisez avec moi le verset 25. Il dit, après avoir mentionné ces trois choses, ces trois expressions de la bonté de Dieu envers lui, il dit, Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur terre. Ou d'autres versions disent, avec toi, ayant toi-même, je n'ai aucun autre désir sur la terre. Là, c'est une expression très forte du contentement, n'est-ce pas? Je n'ai besoin d'autre chose. Ne prenez pas de manière absolue, parce que tout ce que Dieu nous donne comme don dans la vie, notre famille, tout cela, c'est des biens que nous désirons. Mais il parle du désir un peu suprême, dominant. Je n'ai pas d'autre désir dominant, puisque j'ai toi-même. Et ce qui est important ici, c'est que ce n'est plus le fait qu'il m'a sauvé, ni le fait qu'il m'a pardonné, ni le fait qu'il me guide. Ça, c'est les dons de Dieu. Mais maintenant, il va plus loin que ça. Et il dit, puisque je t'ai toi-même, j'ai Dieu lui-même, j'ai ce sauveur aimant lui-même. Et dans toute son travail dans ta vie, Dieu veut t'amener là, à voir que le donateur divin est vraiment infiniment plus que ses dons. Nous nous exultons dans la justification par la foi, dans le salut, dans le pardon. Mais oh, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui meurt sur une croix en tant qu'homme pour que je sois sauvé. Oh, lui, l'avoir lui, ça c'est autre chose. Paul le fait en Romains 5 lorsqu'il dit au début, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, dans l'espérance du paradis. Mais à la fin du passage, il dit, bien plus, nous nous glorifions en Dieu, par qui nous avons la réconciliation. Ça, c'est la première chose, un nouveau contentement en Dieu lui-même. Est-ce que le Seigneur Jésus est quelqu'un de réel pour toi? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que le Christ s'est approché de vous? Est-ce qu'il est devenu, vous êtes devenu familier, tellement familier que vous pouvez dire que oui, il est plus que ses dons. Il y a des gens qui veulent Dieu comme un moyen pour arriver à autre chose. Mais ils ne peuvent pas être sauvés avec une telle foi. Dieu ne se laissera jamais être le moyen d'arriver à autre chose. Deuxièmement, un nouveau contentement, mais une nouvelle confiance. Lisez avec moi le verset 26. Le verset 26, ma chair et mon cœur, regardez bien, mon cœur, peuvent défaillir. Mais Dieu sera le rocher de mon cœur et ma part. J'ai dit une nouvelle confiance parce que ici, le psalmiste a appris une chose incroyable. Il dit au début, mon pied a failli glisser. Mon cœur s'est aigri. Je me suis aigri. C'est ça? Le verbe? Oui. Et donc, il voit que son cœur est capable de s'éloigner de sa première foi, de son premier amour. D'accord? Vous avez eu cette expérience? Moi, je l'ai eue au moins quelques millions de fois, n'est-ce pas? Nous sommes tellement vacillants dans nos cœurs, mais il a réalisé quelque chose. Ma confiance n'est pas dans mon cœur. Ou autrement dit, ma confiance n'est pas dans ma confiance. Ma foi n'est pas dans ma foi. Ma foi n'est pas dans mon amour pour Dieu, mais dans son amour pour moi qui ne change pas. Mon cœur, ma chair et mes cœurs peuvent défaillir, mais ce n'est pas grave. Parce que Dieu est la force de mon cœur. Il me ramènera à cette foi, à cet amour. Je ne suis pas sauvé parce que j'aime Dieu. Je suis sauvé parce que Dieu m'aime. Je ne suis pas sauvé par mon cœur envers Dieu, je suis sauvé par son cœur envers moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et donc ça, c'est important pour de nombreux chrétiens aujourd'hui, parce que encore, j'entends ce discours des chrétiens qui pensent que ils restent chrétiens parce qu'ils gardent leur prise de Jésus-Christ, parce qu'ils ne lâchent pas. Donc, en fait, leur confiance finale, c'est dans leur capacité de garder prise. Mais c'est exactement le contraire de ce que le psalmiste dit. Il dit, moi, j'ai pas besoin d'un cœur qui ne lâche pas. Mon cœur peut défaillir. Mais maintenant, j'ai compris que je ne suis pas sauvé par mon cœur. Je suis sauvé par le cœur de Dieu qui ne me lâchera pas. C'est ça la bonté de Dieu envers toi, si tu es chrétien. Et puis, la dernière chose, un nouveau contentement, une nouvelle confiance et une nouvelle quête, ou bien une nouvelle valeur suprême dans la vie. Il dit dans le verset 27, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, il annonce sa nouvelle valeur suprême. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Voilà cet homme qui jalousait les méchants, les riches, qui, ah, oh, si seulement j'avais cette tranquillité, cette aise, pas d'épreuve, pas de souffrance, pas de mal dans ma vie. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est une quête que Dieu agrée, d'avoir une vie sans problème. C'est presque la seule quête de beaucoup de gens dans le monde. Mais il ne l'a plus ce désir. Vous voyez que dans ce même texte, il parle constamment de Dieu comme le rocher de son cœur et Dieu comme refuge. Ça sous-entend je vais avoir des problèmes parce que j'aurai besoin de refuge. Il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place dans le Seigneur mon refuge. Donc il y a un changement tellement grand que nous avons besoin de voir opérer par le Seigneur dans notre vie, c'est-à-dire ne plus chercher l'aise, la facilité, cet état de bonheur, de vie rose. Vous ne l'aurez pas. Actes chapitre 14, écoutez bien. Paul et Barnabas revenaient dans les églises qu'ils implantaient et ils disaient, le texte dit qu'ils exhortaient, affermissaient les croyants en leur disant un truc bizarre, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'il les fortifiait. Donc, vous voulez une vie de rose? Cherchez ailleurs. Encore C.S. Lewis, il a dit que je ne suis pas devenu chrétien pour être heureux. Je savais qu'une bouteille de Porto ferait ça très bien. D'accord? Vous avez compris? Si vous voulez être chrétien pour avoir un peu de bonheur ici, prenez une bouteille de Porto quand même. C'est pour ça, c'est pas pour ça la vie chrétienne. Le bonheur éternel sera là à l'avenir, mais ici-bas, c'est pas ça. Pas beaucoup de tribulations, vous entrerez dans le royaume de Dieu. Mais si vous êtes si vous voyez cette bonté de Dieu qui vous accompagne dans les épreuves, vous pouvez dire, désormais, mon bien, c'est pas que cette personne arrête de m'embêter. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu. Le Dieu qui m'a saisi, qui me tient, qui me conseille, qui me prépare pour être reçu auprès de lui dans la gloire éternelle, qui m'a fait pour lui-même, qui est mort sur une croix pour pour me ramener à lui-même, être proche de lui, ça, c'est mon bien. Et quelle stabilité dans la vie! Parce que quand les choses mauvaises vous arrivent, vous n'êtes pas, non, ça ne peut pas! Vous dites plutôt, soyez très proche de moi, ô Dieu, dans ceci. Nous allons chanter.